Alice et Marshall sont attendus quai numéro 15.
Top départ, le rendez-vous jeunesse en mouvement qui te donne les clés du voyage.
Pose cette valise. Chouette à l'espaletta.
Ne t'inquiète pas, il n'y aura aucun problème.
Merci de votre attention.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Top Départ, l'émission qui vous donne les clés du voyage pour réaliser vos rêves de départ à l'étranger par Karina et Eulalie. Bonjour Eulalie.
Bonjour Karina. Alors une fois par mois, on écarte les murs autour de vous pour vous faire voyager. Faire intervenir des jeunes étudiants ou travailleurs partis de France pour explorer le monde. Et ce mois-ci, cap vers l'Est. On traverse les terres, direction l'Asie et l'Océanie.
Alors à chaque fois, on fait de plus en plus grand comme zone géographique. Et pour couvrir ce très grand territoire, on a réuni trois voyageurs autour de la table. Layla qui est partie en stage en Corée du Sud. Bonjour Layla.
Bonjour.
Alors Vincent qui est parti avec un permis vacances travail, le fameux PVT en Australie. Bonjour Vincent.
Bonjour à tous.
Kushal pour terminer notre tour de table qui est indien et qui est venu en France pour ses études et qui a pour le moment décidé d'y rester. Et c'est aussi lui qui a choisi la musique de cette émission. Bonjour Kushal.
Bonjour Karina.
Bon, on y va, c'est parti. Kushal, comment est-ce qu'on dit « c'est parti » en hindi?
Franchement, on utilise anglais, donc on dit « let's go ».
Allez, vas-y, ça nous arrange, c'est facile, let's go.
Alors cette émission est une coproduction de Europe Direct Drôme Ardèche, Radio BLV, Valence Roman Aglo, la CAF et la DDCS de la Drôme. Pour commencer, Layla, Vincent, Kushal, on va écouter vos différents parcours. Alors pour commencer peut-être Layla, pourquoi tu es partie, où es-tu partie et comment et quand?
Alors, moi je suis partie en Corée du Sud, à Séoul, la capitale, c'était il y a 2 ans. Je suis partie dans le cadre donc, de mon BTS Commerce International. On devait faire un stage donc, de 2 mois minimum. J'ai pris une carte du monde et c'est tombé sur la Corée du Sud, pays que je ne connaissais pas du tout. Je suis partie grâce à un organisme, par contre. J'ai fait donc, un stage dans une ONG. J'ai mis 6 mois à le trouver, le stage. Je suis arrivée là-bas. 2-3 premiers jours, j'étais toute seule, juste m'acclimater à mon Airbnb. Je ne parlais pas la langue, je tâtonnais un petit peu, quoi. Donc j'essayais de faire attention à quand j'allais faire les courses, que je prenais à manger, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choix et des choses complètement différentes, donc ça faisait un peu peur au début. Mais surtout quand je suis arrivée, ce qui m'a étonnée, enfin à Séoul en tout cas, c'est les buildings. En fait, on dirait New York, c'est incroyable, tout va très vite et on n'a pas le temps de comprendre qu'on est là, quoi. Et j'étais déjà à 10 000 km de chez moi, donc voilà. Après, du coup, j'ai commencé le travail 1 ou 2 semaines après. J'en ai profité après pour allonger mon séjour et aller sur l'île de Jeju. Je comptais aller au Japon, mais niveau papier administratif, c'était beaucoup trop compliqué de le faire comme ça, spontanément. Il fallait s'y prendre un peu plus à l'avance. Du coup, j'ai préféré aller sur l'île de Jeju. Et c'était magnifique. Ils l'appellent d'ailleurs le petit Hawaï. Donc si vous avez l'occasion un jour d'y aller, je vous le conseille vivement, parce que c'est vraiment magnifique. Et on est rentré juste à temps, parce qu'après il y avait une tempête tropicale, et on a failli ne pas avoir notre avion, donc on est rentré juste à temps. Du coup, en gros, ce que j'ai fait en Corée du Sud.
On rentrera un peu plus dans le détail après ça. Vincent, de ton côté, tu es parti en Australie pour travailler là-bas en faisant une demande de permis vacances-travail, le PVT. Est-ce que je te propose, avant de commencer de nous raconter, c'est d'écouter l'enregistrement de Julie Meunier, qui est la cofondatrice du site internet PVTiste et qui explique en gros ce qu'est ce permis et comment ça fonctionne. Et puis ensuite, on t'écoutera.
Ok.
Alors, je m'appelle Julie Meunier, je suis cofondatrice du site pvtis.net, qui est un site d'information gratuit sur le programme vacances-travail, le PVT, et j'ai moi-même fait 2 PVT, un au Canada et un en Australie. Alors, au Canada, j'ai plutôt fait un PVT sédentaire. J'étais partie parce que j'étais étudiante en langue et je voulais m'améliorer beaucoup plus que ce que je faisais à la fac. Et donc, je suis allée m'installer pendant 1 an à Toronto. Et j'ai voyagé que de temps en temps. Donc c'était super. J'ai fait différents boulots. J'ai travaillé dans un ministère comme réceptionniste bilingue. J'ai été professeur de français. J'ai fait de la traduction. Donc c'était sympa. Et ensuite en Australie, j'ai fait plutôt un PVT nomade. Là, j'ai travaillé de temps en temps. Pas mal dans la cueillette de fruits et légumes. J'ai aussi un peu bossé dans un bar et j'ai fait un petit peu de ménage dans un solarium. Mais j'ai passé beaucoup de temps dans l'année à voyager en van, avec des gens que j'ai rencontrés, etc. Donc j'ai vraiment fait des PVT qui se sont pas du tout ressemblés. Et ça montre bien qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de règle, hein. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire de votre année à l'étranger. Quand on veut partir, par exemple, on va prendre l'exemple de l'Australie ou du Canada. Si je veux aller travailler dans ces deux pays-là, je ne peux pas simplement prendre un billet d'avion et partir sur place et commencer à travailler. La règle de base, normalement, quand on veut aller travailler dans des pays lointains, il faut trouver un employeur en amont, que cet employeur veuille bien faire des démarches pour que j'obtienne un visa de travail. Et autant dire que c'est assez compliqué, c'est payant, c'est beaucoup de paperasse et généralement il doit justifier le fait qu'il souhaite embaucher un travailleur étranger. Donc c'est pas forcément évident de partir avec un visa de travail classique. Là avec le PVT, je demande mon visa, j'ai pas besoin d'avoir trouvé un emploi, je pars à l'étranger et une fois que je suis sur place, je vais déposer des CV, me faire un réseau, etc. Et voilà, je fais un petit peu ce que je veux pendant... toute la durée du PVT, qui est de 1 an maximum dans la majorité des pays, et au Canada, c'est 2 ans maximum. Alors, c'est chaque pays qui va fixer la procédure. Nous, sur pvtis.net, on a un tutoriel pour chaque pays qui vous permet de voir quels documents sont demandés, où il faut faire la démarche, pour bien faire attention de faire la démarche auprès des autorités officielles, bien évidemment. Et puis ensuite, vous allez directement vers les autorités pour déposer votre demande. Il faut faire attention aux sites malhonnêtes qui se font passer pour des sites officiels. N'hésitez pas à utiliser nos tutoriels, comme ça on vous mène toujours vers le bon site et il n'y aura pas d'inquiétude. Deuxièmement, il faut des économies quand on part en PVT. Les pays demandent entre 1200 et 3500 euros selon les pays, parce que comme je vous le disais, quand on part en PVT, on n'a pas d'emploi. Et le temps de s'installer, de trouver un premier emploi qui peut arriver au bout de 2, 3 ou 4 semaines, on a besoin d'avoir un peu d'économie de côté. Et dernière chose, on a l'obligation quand on part en PVT de souscrire une assurance PVT. C'est obligatoire, mais surtout, c'est important. On l'a bien vu là avec le Covid, on ne sait pas du tout ce qui peut nous arriver quand on est à l'étranger. Un petit accident de rien du tout ou quelque chose de plus grave, c'est important d'être couvert quand on est là-bas puisque la sécurité sociale française ne nous couvre pas. Ça peut être un petit peu inquiétant comme ça de partir à l'autre bout du monde sans emploi, mais sachez que hors Covid toujours, il y a plus de 45 000 Français qui partent en PVT chaque année. Donc c'est quelque chose qui est à portée de main à partir du moment où vous vous documentez un minimum sur comment préparer votre départ, etc. C'est vrai que faut pas partir non plus trop à l'aventure, mais en tout cas c'est à portée de main. Et sachez qu'au retour, que vous ayez beaucoup travaillé ou même beaucoup pratiqué la langue du pays, ce sera toujours valorisable, sur un CV ou pour intégrer une école à partir du moment où vous le mettez bien en valeur sur votre candidature. Mais c'est jamais une année de perdu. C'est vraiment, pour la majorité des PVTistes, c'est parmi les meilleures années de leur vie. Donc je le recommande vraiment.
Alors Vincent, est-ce que c'est parmi les meilleures années de ta vie? Et peut-être pour raconter ton parcours, si tu peux faire juste un tout petit peu plus court, parce qu'on est déjà un tout petit peu en retard.
Eh bien, je suis d'accord avec la fondatrice de pvtiste.net. Hein, ça fait partie d'une de mes meilleures années, donc j'en garde un très très bon souvenir. Donc mon parcours, moi j'ai fait des études en logistique et transport international. Donc pendant mes études, j'avais eu l'occasion de faire un stage en Angleterre de 4 mois. Et puis j'ai commencé en fait à travailler à Lyon pendant à peu près 1 an et demi. Mais j'avais toujours dans un coin de ma tête en fait la volonté de partir, de repartir dans un pays anglophone en fait pour vraiment développer mon anglais et puis avoir une expérience aussi pro dans un pays anglophone. Donc en fait j'étais en poste dans une société de transport, je cherchais un petit peu à droite à gauche plutôt sur l'Angleterre, l'Irlande, et ça avançait pas forcément beaucoup. Et en fait dans le cadre de mon travail au quotidien, j'étais en relation avec des transporteurs en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc c'est comme ça que en fait, au fur et à mesure, ça a mûri dans ma tête. Donc, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé le boulot depuis la France En ayant mon poste depuis la France, j'ai cherché les possibilités pour pouvoir partir en Australie. Et bah, je me suis documenté, mais je savais qu'il y avait la solution effectivement du PVT, qui est vraiment super par rapport au visa de travail, parce que le PVT, tu peux, t'es pas obligé d'avoir ni de contrat, ni de logement, ni de connaître qui que ce soit sur place. La chance que j'ai eue, bah, c'est qu'en fait, moi, je suis parti en 2008, donc ça fait un petit moment, c'était au mois d'avril. Et en fait, une semaine ou 10 jours après mon arrivée, je commençais mon boulot, en fait. Et en plus, l'arrivée sur place s'était plutôt bien passée parce que l'entreprise pour laquelle je travaillais là-bas me payait le logement. Donc j'avais été à l'hôtel pendant une semaine ou 10 jours, le temps de trouver une colocation. Voilà. Après, quand on arrive sur place, moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est la différence linguistique, hein, entre ce que j'ai appris pendant mes études, ce que j'ai vu quand j'étais en Angleterre, et puis arriver sur place où il y a que des... Enfin, moi, l'entreprise pour laquelle je travaillais, il y avait essentiellement des Australiens, donc ça a été un petit peu compliqué au départ. Et puis après, des super souvenirs, parce que du boulot du lundi au vendredi, mais après le week-end, des possibilités de visite de Melbourne, parce que j'ai passé en fait les 8 premiers mois à Melbourne. Et après, au bout de 8 mois, j'ai eu la possibilité de continuer dans la même structure, mais sur Sydney. Donc plutôt du travail, mais quand même... Des très très bons souvenirs pour les soirées sur Melbourne, sur Sydney, les virées le week-end sur 2-3 jours. Voilà. Après, je développerai peut-être un petit peu plus par la suite.
Merci.
Merci. Et pour finir, Kushal, donc toi, c'est l'inverse. Tu es venu en France. Donc voilà, raconte-nous un petit peu pourquoi tu as décidé de venir en France, dans quel contexte?
Du coup, en Inde, j'ai fait mes études, un cliché indien, en ingénierie mécanique. J'ai fait la licence en Inde, dans le sud de l'Inde, à Bangalore, qui est assez grande ville. En fait, moi, je viens d'un centre-ouest, de toute petite ville de 6 millions. Après, j'étais en Bangalore dans le sud pendant 4 ans pour mes études. Et après, j'ai dit à mon père, allez, moi, j'y vais. Il m'a demandé, tu vas où? J'ai dit, je ne sais pas, mais dans un an, je saurai. Et après, je voulais faire un master très spécifique. Et j'ai commencé à chercher les écoles partout dans le monde. Les pays anglophones, j'ai dit non, parce que ça coûte très, très cher. Comme il y a beaucoup d'Indiens qui partent pour les pays anglophones, ça coûte trop, trop, trop cher. Et moi, je n'étais pas capable de payer tout ça. Et du coup, j'ai visé l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, en fait, pour les études, pour faire les masters, pour les étrangers, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Donc, on a dit, allez, parfait, on va en Allemagne. Mais je n'étais pas le seul qui a eu cette idée. Il y a beaucoup d'Indiens qui ont cette idée. Donc, c'était très difficile d'avoir une place en Allemagne. Et du coup, on m'a vite répondu que non, on ne peut pas vous prendre parce qu'il y a beaucoup d'Indiens. Et voilà. Et j'ai commencé à regarder d'autres écoles en Europe qui avaient le même master, dont il y avait une école en France, c'était l'École centrale de Nantes. Et du coup, j'ai dit, allez, on va demander la France. Et j'ai demandé aussi en même temps une école en Angleterre et une école en Espagne, en Barcelone. Et l'Angleterre m'a répondu, OK, c'est bon, vous pouvez venir. L'Angleterre, ça reste très, très cher. Et la France a accepté ma demande. En plus, ils m'ont donné un scholarship, je ne sais pas pourquoi, franchement. Et du coup, j'ai dit, allez, c'est bon. Du coup, ça, c'était pas gratuit en France, mais ça reste un peu pareil si je l'avais fait en Inde. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher que l'Inde. Et du coup, comme je dis, j'ai visé vraiment l'Allemagne, moi, avec beaucoup de potes. Du coup, j'ai commencé à apprendre l'allemand. en Inde. Parce que j'étais très sûr, ok, ça va passer. Et du coup, j'ai fini un niveau en allemand, le A1. Et c'était après ça que j'ai appris que okay, non, ça ne sera pas possible en Allemagne. Et je n'avais pas beaucoup de temps pour apprendre le français. Donc, il me restait 2 mois pour venir en France. Que j'ai appris que okay, voilà, c'est bon, l'école m'a accepté et tout. Là, j'ai commencé toutes les procédures de visa pour prendre un crédit auprès de la banque. Et là, c'est beaucoup de paperasse et il faut bouger entre les villes, les grandes villes où il y a l'ambassade et tout ça. Du coup, c'était très, très difficile pendant 2 mois. Mais après, je pense que l'école à Nantes m'a beaucoup aidé. Ils ont fait, pour venir ici, comment faire. Le logement ici, pour avoir un compte bancaire ici, tout ça, c'était déjà fait. Il n'y avait rien à faire. Et il y a aussi un organisme qui s'appelle Alliance Française.
Alliance Française.
Française, qui est dans tous les pays du monde, je pense. Et c'est eux qui ont géré tout ce qui était visa et voilà, niveau administratif. Et on m'a beaucoup aidé. Et voilà. Je ne savais pas franchement comment faire. Mais là, je suis là, ça fait 6 ans. Et du coup, voilà. Je suis arrivé à Nantes, tout s'est très bien passé. Je pense qu'il y avait beaucoup de bénévoles à l'école qui ont venu jusqu'à Paris pour recevoir tous les étrangers qui venaient. Du coup, on est arrivé à Paris, CDG, on a pris le train pour aller à Nantes direct. Et l'arrivée à Nantes, c'était très bien. Premier jour, il y avait une fête, le 1er septembre, je rappelle. Et là, comme j'ai fait un master, c'était que pour les étrangers, on peut dire, parce qu'il n'y avait que les étrangers, il n'y avait pas des Français. Parce qu'en France, je pense qu'on ne fait pas bac plus 5 plus un master. Bac plus 5, c'est équivalent d'un master. Du coup, premier jour, que les étrangers, tout le monde qui parle anglais, parfait. Pas de problème, pas de problème de français. Et déjà, le premier jour, j'ai fait plein d'amis avec qui je suis toujours en contact. Et tout s'est très bien passé.
Tu as étudié combien de temps à Nantes ?
À Nantes, c'était 1 an et demi, plus 6 mois de... j'ai fait un stage à Compiègne, qui est au nord de Paris, un peu perdu. Et du coup, j'ai fait 1 an et demi à Nantes, 6 mois à Compiègne. Je suis retourné à Nantes pour quelques mois en cherchant un boulot. Et après, on m'a proposé un poste ici, pas à Valence, mais à Romans-sur-Isère, qui est juste à côté.
Et depuis, tu es là.
Depuis, je suis là. Normalement, c'était prévu que je fasse une formation de 6 mois à Romans. Et après, je parte en Angleterre. C'était prévu comme ça. Mais au bout de 6 mois, mon chef il m'a demandé « Est-ce que tu as toujours envie de partir en Angleterre ?» J'ai dit « Non, j'aime bien la vie tromboise. Ça me plaît et je vais rester ici. »
Alors, on va faire une première pause musicale en écoutant « Little Krishna and the Girls » de Chassol, c'est ça ?
Oui, Chassol, c'est... En fait, lui, il n'est pas indien. Je pense qu'il est belge. Et il est allé en Inde. Il a écouté beaucoup de musique un peu partout. Il a recordé toute cette musique. Et après, il a ajouté quelque chose, source de musique. Mm-hmm. Et il a fait un album qui est Indie Amour, je pense. C'est très, très bon.
Allez, on écoute. Nanhe, nanhe, paan. Vous êtes sur Radio BLV 93.6 et vous écoutez Top Départ ce mois-ci sur l'Asie, d'où cette belle musique indienne.
Il paraît que c'est typique.
Alors, Kushal, est-ce que tu te rappelles quand tu es arrivé en France d'un choc culturel que tu as vécu où tu t'es dit « Oh tiens, ça c'est bizarre, c'est vraiment différent par rapport à l'Inde ».
Oui. Bah, la culture générale, on le sait déjà parce qu'on regarde pas mal de films européens, américains, tout ça, donc on sait à peu près, on a beaucoup d'amis un peu à droite, à gauche. Et du coup, tout ça, je savais déjà. Mais un truc qui m'a choqué vraiment, c'était la politesse. On vit quotidien, on dit bonjour à tout le monde, on dit au revoir, merci, mais à tout le monde, ça n'existe pas en Inde, pas du tout. On va dans un magasin, on ne va jamais dire bonjour, c'est bon, on peut y aller, on lui dit ok, je veux un bon mot, tu payes voilà, un roupie et voilà, tu pars. Pas de politesse, rien. Du coup, la politesse, voilà, ça m'a bien choqué. Et aussi, l'autre truc qui est un peu peut-être lié, c'est quand on va au restaurant, chacun commande pour lui-même ou elle-même. En Inde, ce n'est pas du tout comme ça. Vous prenez la décision comme un groupe. C'est un travail de groupe. Et dès l'arrivée de plat ou un truc comme ça, on attaque tout ensemble. Il n'y a pas de politesse. Est-ce que je peux prendre ? Est-ce que je peux ? Est-ce que... Non, ça n'existe pas. Si c'est sous la table, moi, j'ai le droit d'y aller. Et ça, c'est très différent ici en France.
Ah, qui aurait cru qu'on soit si polis, nous les Français?
Oui, parce que d'habitude, le cliché, c'est plutôt l'inverse.
Ça fait plaisir. Alors, on va parler maintenant préparation, donc là, avant de partir. Est-ce que tous les trois, vous auriez des conseils à donner aux auditrices ou aux auditeurs qui aimeraient partir en Asie ou en Océanie pour se préparer, que ce soit apprendre la langue, faire des démarches administratives, trouver un logement, un travail.
Se préparer psychologiquement.
Aussi. Tout ce qu'il faudrait savoir, selon vous, un peu pour se préparer.
Ben, moi, je pense que c'est quand même bien de se renseigner. Grâce à Internet, on peut avoir beaucoup, beaucoup de renseignements. Moi, je prône à fond le site internet pvtiste.net hein, pour les gens qui partent en PVT. Mon cas, c'est l'Australie, mais effectivement, il y a plein d'autres destinations maintenant. Le Canada, la Nouvelle-Zélande, je crois qu'il y a la Corée, la Russie, l'Équateur, l'Argentine. Donc vraiment, les gens qui veulent partir plusieurs mois quelque part, n'hésitez pas. Et puis après, plus focalisé sur l'Australie, moi j'avais cherché un site type Le Bon Coin ou choses comme ça. Et en fait, là-bas, ils ont un site qui marche très très bien pour tout ce qui est colocation, achat de véhicules, achat de vélos, etc. C'est gumtree.com.au. Et donc, c'est l'équivalent un peu de notre Bon Coin. Et c'est généralement comme ça que j'avais trouvé les différentes colocs dans lesquelles j'ai vécu à Melbourne et aussi à Sydney.
Ouais, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à écumer un peu Internet. Aussi, maintenant, aller sur YouTube, parce que mine de rien, il y a pas mal de gens qui font des vidéos dessus et qui peuvent avoir des réponses un peu plus détaillées, des anecdotes plus détaillées, nous rediriger vers d'autres sites qu'on ne connaît pas forcément au tout début. Et en rapport plus avec la Corée, la Chine ou le Japon, par exemple, il faut savoir avant de partir qu'il ne fonctionne pas vraiment avec Google et que nous, en faisant les recherches d'ici avec Google, on ne va pas forcément trouver tout ce qu'on veut. Donc pour la Corée, il faut regarder sur le site naver.com. Et après, ça dépend pour la Chine et le Japon. Je sais qu'ils ont leur propre moteur de recherche aussi. Donc ça, il faut le savoir avant de partir.
Naver, ça s'écrit comment ?
C'est N-A-V-E-R. N-A-V-E-R.com. Et comme ça, au moins, on aura plus de recherches et pas hésiter à aller sur Google Traduction, écrire les choses en coréen directement et les traduire parce que des fois en anglais et en français, forcément, on trouve pas grand-chose.
Et la structure dont tu parlais qui t'a aidé, qui a tout préparé pour toi un peu sur ton voyage, ça s'appelle comment en Corée du Sud ?
C'était koreagapierre.com. Comme ça s'entend.
Kushal, quelque chose à rajouter ?
Je pense qu'on part de l'Inde pour venir dans un pays développé comme France, il n'y a pas plein de choses à gérer côté administratif parce que c'est l'école qui gère pas mal de trucs. Il y a l'Alliance française qui gère pas mal de trucs. Et du coup, c'est surtout niveau psychologiquement, je pense qu'il faut se préparer. Voilà. On vient dans un pays où, où on mange beaucoup de viande. Ça, c'était un truc qui m'a choqué parce que j'étais végétarien pendant toute ma vie en Inde. Dès que je suis arrivé en France, voilà, pas d'option. Il n'y a pas beaucoup de restos. Voilà. Du coup, des trucs comme ça. Les Indiens, on est très accrochés avec la bouffe, mais comme il faut, indien. Et là, il faut oublier un peu, pour un petit moment, ou il faut savoir comment cuisiner. Et tout qui a ça. Après, la langue, je pense que ce n'est pas vraiment un souci au
oui,
début.
Parce que toi, tu as pris des cours d'allemand, finalement,
ouais. pour venir en France. Ça ne m'a pas trop aidé quand j'ai allé à la boulangerie.
Et même pas dans l'Est, quoi.
La langue, c'est un... Il y a beaucoup d'Indiens qui pensent qu'apprendre une langue étrangère, c'est très difficile. À 23 ans, oui, c'est difficile, mais on n'est pas... Il n'y a personne qui demande, il faut que vous parliez parfaitement. Ça fait 6 ans que je suis là, j'ai fait plein d'erreurs, mais ça va, ça passe. Il n'y a personne qui me dit, non, je ne parle pas avec toi. Je suis à la radio, tu vois, c'est vraiment l'ironie. Et du coup, je dirais qu'il faut y aller. Tout ce qui est besoin administratif et tout ça, c'est, une fois c'est géré, après il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à voir. Donc ça passe.
Alors, donc maintenant on va faire la deuxième pause musicale. Alors, Kouchal, je vais te laisser nous annoncer la musique, la chanson que tu as choisie.
Le titre s'appelle Shubharamb.
Et ça parle de quoi ?
Shubharam, ça veut dire un bon début, quoi. Et du coup, c'est, ouais, on va commencer un truc, c'est positif, un truc comme ça.
हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई शहनाई शहनाई
रास रची लो साज सजी लो शुभ घड़ी छे आवी आचा आचा टम टम आता शमणा हो जे लावी ओ लावी ओ मिलके साथ ही हमको ढोना है शहनाई 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 नोकी डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई
Vous êtes toujours sur Radio BLV et vous venez d'écouter...
C'était Choubaram.
Merci Kushal. Et bah oui, vous avez écouté cette musique indienne parce qu'on est parti en Inde un petit peu pour cette émission sur l'Asie. Et maintenant, on va parler repas.
Où sont les poulards ? J'ai faim !
Alors Kushal, une recette indienne que tu aimes faire ici pour te rappeler ton pays ?
Oui, du coup, moi j'aime beaucoup les œufs. Comme je dis, j'étais végétarien en Inde, mais pas végétarien, égitarien, comme on dit en Inde. J'ai mangé les œufs. Et du coup, ça c'est une recette très simple. Normalement, si vous avez les épices indiennes, mais sinon, ça peut passer aussi. On commence. Tout ce qu'on a besoin, c'est alors, un peu de l'ail, un peu de gingembre, le cumin entier, quelques oignons, quelques tomates et les œufs. Voilà. Et la volonté, bien sûr. Et du coup, on commence, on prend un peu de l'huile, on le chauffe, on ajoute d'abord le cumin entier. Et là, vous allez sentir directement un peu de l'Inde, c'est très aromatique. On ajoute un peu de l'ail, un peu de gingembre. On laisse pendant 5 secondes à peu près. Après, on ajoute les oignons. On cuisine les oignons jusqu'à ce qu'elles sont un peu dorées. Et là, on ajoute le tomate. Et on laisse cuisiner jusqu'à pour 5 minutes à peu près, jusqu'à ce que c'est tout bien mélangé. Donc, on a une sauce assez consistante, un peu épais. Et dans le même temps, on va aussi faire bouillir les œufs. Et une fois ils sont durs, et on le coupe et on sépare la partie jaune qui est dedans. Et on prend la partie jaune et on le met dans la sauce qu'on a préparée à côté. Et là, on cuisine encore avec les jaunes d'œuf, des œufs. Et là, ça fait une sauce bien épaisse avec des tomates, des oignons. Et à ce moment-là, on peut ajouter quelques épices. Si vous avez le curry, vous pouvez y aller. Un peu de sel, bien sûr, un peu de poivre. Et la sauce est préparée. Et maintenant, avec le blanc des œufs, on le coupe, on peut le râper. Ou on le coupe très très petit. Et après, on le mélange dans la sauce qu'on a préparée. Et là, ça fait... Ça fait un bon plat.
C'est noté. Il faudra qu'on teste ça. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de retourner dans votre mémoire et de retourner sur place, sauf pour Kushal qui y est, et de partager un peu comment ça s'est passé. Alors, peut-être au niveau des différences, des choses intéressantes que vous avez découvertes qui n'étaient pas les mêmes que chez nous. Et peut-être des conseils du coup que vous avez à donner par rapport à ça. Ou aussi, il y a une question aussi assez basique, mais le coût de la vie sur place, ce genre de choses.
Bah, je veux bien commencer du coup.
Naila.
Pour les différences culturelles, tout à l'heure on parlait de la politesse. C'est vrai que en France, on a tendance à être un peu plus poli. Et on va dire que ça dépend sur quoi, parce que par exemple que quand pareil qu'en Inde, quand on rentre dans un magasin en Corée du Sud, moi, j'avais l'habitude de dire bonjour, au revoir et merci. Sauf que là-bas, pas du tout. Et je me suis vite rendu compte que j'aurais jamais de réponse à mes bonjour, mes au revoir, etc. Et que même ça leur paraissait bizarre, ils levaient la tête et me regardaient. De l'air de dire, mais pourquoi est-ce qu'elle me parle ? Du coup, c'était un peu bizarre au début. Après, sinon, c'était surtout au niveau de la nourriture. C'est très différent. Il n'y a pas trop de produits laitiers. Et dès qu'il y en a dans les supermarchés, c'est très cher. Donc nous, en France, on a l'habitude du fromage, etc. Et ça, j'ai dû vite abandonner l'idée parce que c'était beaucoup trop cher. Mais ils ont quand même de la nourriture en face qui est extraordinaire. Donc ça m'a vite fait oublier le fromage français. Et sinon, au niveau de la politesse, ils sont quand même très, très polis. Et par exemple, pour dire bonjour, dans les pays asiatiques, généralement, donc... le Japon, la Corée et la Chine, ils vont se baisser, s'incliner selon si la personne elle est plus âgée ou non. Il va avoir un degré d'inclinement. Donc ça, au début, il faut le savoir un petit peu. Ça peut étonner certaines personnes. Mais on prend vite l'habitude aussi. On fait pas la bise, on se fait pas de câlin, force de bonjour, au revoir, même entre amis, entre collègues. Donc ça, il faut vite... éviter de trop être en contact avec les gens parce que ça peut les mettre mal à l'aise, c'est pas dans leur culture. Sinon, ils sont très gentils, très accueillants. Ça m'a fait penser au Maroc. Ils ont beaucoup de similarités avec le Maroc, ça peut être très surprenant, mais ils sont très similaires. Une autre chose qui m'a surprise, c'est qu'au travail, quand on rentrait dans le bureau, donc on enlevait nos chaussures, on avait des claquettes qui étaient préparées pour ouais. qu'on ne soit pas avec les chaussures et qu'on ne ramène pas la saleté de dehors à l'intérieur. Et dans quasiment toutes les maisons en Corée du Sud, à l'entrée, donc on enlève nos chaussures et on met nos claquettes, etc. Et c'est prévu pour. Donc la propreté, c'est très, très important, l'hygiène de vie. Et ils tiennent à respecter ça et à faire respecter ça aussi. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié des trucs. Enfin, j'oublie sûrement des choses parce que ça fait un moment. Mais ouais, voilà.
Merci. Vincent ?
Moi, l'Australie... Alors, la partie financière, c'était plutôt pas mal. J'avais un salaire correct. Alors, à l'époque, de mémoire, c'était un salaire de 3 500 $ australiens. Mais le dollar australien était assez faible. Donc, il y avait une grosse différence de taux. Ça faisait à peu près 1 800 € par mois. Donc, franchement, ça allait très, très bien. Ce qui permettait de sortir pas mal, de manger à droite, à gauche, de faire des sorties, des activités le week-end. Donc, ça c'était vraiment agréable de ne pas, trop regarder la partie financière. Et puis après, sur Melbourne, moi, quand je suis arrivé, ce qui m'a marqué, en fait, surtout par rapport à Lyon, d'où je venais, c'est le mélange, en fait, des cultures, des gens vraiment qui viennent vraiment du monde entier. On peut penser que l'Australie, c'est des gens, entre guillemets, d'origine britannique, mais en fait, il y a énormément d'Asiatiques, donc des gens qui viennent de Chine, de Corée, des gens qui viennent du sous-continent indien, donc de l'Inde, du Pakistan,
du Népal,
du Sri Lanka, etc. Et c'est vrai que moi, je me souviens, à Melbourne, il y a certains quartiers, c'est vraiment que des Vietnamiens ou que des Chinois. Après, il y a une partie, une immigration un petit peu plus ancienne, des gens qui sont italiens, enfin d'origine italienne, et puis de Grèce aussi. Il y a une anecdote dont je me souviens, c'est ils disent que la deuxième ville grecque du monde, après Athènes, c'est Melbourne.
Vincent, je te propose d'écouter un enregistrement audio de Grain et Sens, de Romain Guilbault qui travaille là-bas. En fait, c'est un endroit de woofing. Et Romain explique le concept de woofing parce que justement, je m'adresse à toi précisément parce que l'Australie est une grosse destination woofing. Et auditeurs et auditrices, c'est important que vous sachiez aussi que vous pouvez partir en Australie et à l'étranger en général, en Asie aussi, avec cette plateforme si vous avez envie de mettre la main dans la terre. On écoute.
Romain, j'habite à Beaufort dans un oasis qui s'appelle Grain et Sens. Grain et Sens, c'est un oasis, donc c'est un habitat partagé et aussi un lieu ressource où on fait des camps pour les enfants, des stages pour les adultes en permaculture et en agroécologie. Et en ce moment, même un séjour famille pour permaculture. Et on accueille des gens en woofing toute l'année, régulièrement, depuis 4 ans. Alors moi, je suis parti... presque 3 ans autour du monde en vélo et je faisais du woofing sur ma route. Et donc j'ai fait du woofing dans une vingtaine de fermes, dans presque une vingtaine de pays. Et c'est comme ça que je me suis initié à l'agroécologie. Et quand je suis revenu, je suis devenu animateur en agroécologie et aujourd'hui je transmets l'agroécologie et la permaculture. Alors le woofing, l'idée c'est World Wild Organic Farming, Opportunities in Organic Farming. Et l'idée, c'est d'aller dans les fermes et d'apprendre ce qu'ils font en échange du travail. Et on est nourri, logé. Donc c'est de l'échange et on est payé en savoir et en savoir-faire, en savoir-être, en utilisant ses mains, en ayant de la connexion à la terre. C'est comme ça qu'on est rémunéré. Et ça existe tout autour du monde, dans presque tous les pays. Tout le monde, tout âge, même des familles, de 18 à 99 ans, même 100 ans, je pense qu'on pourrait le faire. Souvent, c'est minimum une semaine. Il y Il y a des lieux qui préfèrent que ça soit un minimum 2-3 semaines, des fois minimum un mois. Et puis ça peut aller jusqu'à 3 mois, voire plus, suivant si ça se passe bien entre les agriculteurs et les personnes qui viennent en woofing. Et bientôt, on fêtera les 50 ans en France du woofing. Ça m'a apporté à savoir faire pousser ce que je mange, qui est une des bases de la survie. Hein. Moi, je suis parti en woofing en me disant, voilà, on vit dans un monde où on peut douter de tout, de d'où viennent les choses, de comment on produit nos vêtements, comment on produit ce qu'on mange. Et j'avais envie de revenir à la terre et être plus autonome. Et la première chose qui me semblait le plus cohérent, c'était d'apprendre à produire ce que je mange. Et donc, j'ai appris des techniques et des notions pour faire pousser tout ce que je mange, que ce soit au jardin potager ou même les céréales, ou de transformer des choses, de préserver les semences, et donc de me mettre au service du vivant. Il y a un site par pays, donc suivant le pays où on va, il faut s'inscrire sur le site du pays, entre 20 et 50 euros maximum par pays, et puis après on a accès à tout le réseau, et on prend contact avec l'agriculteur, et puis on espère avoir une réponse, on attend des fois quelques semaines, parce qu'ils sont très occupés, donc ils mettent longtemps à répondre. Mais il ne faut pas désespérer, il faut mieux envoyer plusieurs demandes à la fois qu'une et attendre. Et puis des fois, il y a un alignement et on arrive à aller faire du woofing dans une des fermes et découvrir ce qu'ils y font. C'est bien de clarifier un peu pourquoi on a envie d'aller faire du woofing, de clarifier aussi un peu quel type d'agriculture on a envie de découvrir, même si au début on a envie de tout découvrir, mais est-ce que c'est plus l'élevage, est-ce que c'est plus le maraîchage, est-ce que c'est plus les fruitiers, est-ce que c'est plus ce qui est transformation, pain ou autre transformation de légumes, et d'aller cibler plutôt que de ratisser large. Mais après, tout est super à découvrir, donc je leur souhaite plein de bonnes aventures woofing.
Donc si vous avez envie de partir en woofing, vous pouvez aller sur... en France, par exemple, vous pouvez aller sur le site de Grains Essence. Sinon, partout à l'étranger, hein, sur le site de woofing, vous trouvez toutes les infos. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont partis déjà en woofing?
Non, moi, j'en ai croisé beaucoup, des backpackers, enfin des Européens qui venaient en Australie avec un PVT. Parce que c'est très, très à la mode, très, très répandu, en fait. Des gens qui vont faire tout le tour de l'Australie ou une partie de l'Australie en van ou en bus et qui s'arrêtent quelques temps, justement, pour faire du woofing, parce que ça permet aussi d'être logé, de se poser un petit peu et puis d'être aussi en contact avec des locaux, ce qui est vraiment super intéressant.
Et Kushal, si on inverse la question... Qu'est-ce qu'il y a comme particularité indienne qui serait important à savoir pour les Français ou Françaises qui auraient envie de partir en Inde?
C'est sûr qu'il faut avoir un esprit très ouvert, parce que c'est une culture complètement différente qu'ici. Dès que vous arrivez, il fait chaud, il y a beaucoup de bruit. L'odeur, il y a plein des odeurs dans l'air, ça sent différent. Donc il faut être ouvert à ça. Il faut savoir que voilà, on va dans un pays très loin, culturellement très différent, donc c'est complètement différent. Voilà, c'est si on est ouvert à ça, après ça se passe très bien. Et en Inde, on a beaucoup de street food, par exemple. Ça, j'ai pensé à ça parce que j'ai déjà des amis un peu européens qui ont venu en Inde, et ça, c'est un truc. Il y a beaucoup de gens qui évitent tout le temps en disant que voilà, l'hygiène et tout ça. Mais il y a quand même pas mal de street food, si on regarde d'un peu près, qui est bien fait. Et... Parce que si on ne mange pas le street food en Inde, on rate vraiment un truc très important dans l'expérience indienne.
Donc manger le street food.
Manger le street food, ça je vous conseille.
Alors, est-ce que tous les trois, enfin chacun d'entre vous, vous pouvez nous donner un meilleur souvenir que vous avez de là-bas, ou donc pour toi, que tu as d'ici en France? Donc, je sais pas, Leïla, pourquoi pas?
Alors, un seul meilleur souvenir, c'est compliqué d'en choisir qu'un. Je pense que c'était le festival que j'ai fait avec mon entreprise. Parce que ça réunissait pas mal de monde, ça réunissait deux continents. Et de voir des ambassadeurs réunis de plusieurs pays d'Afrique, de pouvoir parler français, Là-bas, ce qui est très rare, j'ai dû parler français 3-4 fois maximum en 3 mois, donc c'est très très rare. Et de voir ce mélange culturel, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des activités, de voir que tout le monde était content d'essayer un petit peu tout, de se rencontrer, etc. C'était vraiment un mélange qui fait plaisir à voir, honnêtement, et tout ça dans un cadre qui est très joli, et il y a une certaine fierté derrière de se dire qu'on a participé à un projet comme ça qui est aussi impactant.
Vincent ?
Alors moi, pour citer un souvenir, je pense que c'est quand j'ai passé les 3 derniers mois sur Sydney. Je pense que le moment dont je me souviendrai toujours, c'est le nouvel an à l'extérieur, à Sydney. Donc les feux d'artifice dans la baie de Sydney avec l'opéra de Sydney, le pont qui enjambe la baie. Ça, c'est un lieu mythique qu'on voit très très souvent à la télé. Et c'est vrai que quand on est là-bas, on se dit bon, cette fois, c'est moi qui suis sur place et voilà, faut en profiter à fond. Et puis moi, l'Australie, c'est vraiment, pour le coup, c'est l'autre bout de la planète, réellement. Et quand on y va une fois, on se dit peut-être que j'y retournerai jamais de ma vie. Donc c'est vrai qu'il faut essayer d'en profiter à fond.
Kushal ?
C'est difficile de choisir un moment.
Parce
que là, ça fait 6 ans, j'ai passé pas mal de bons moments. Mais dernièrement, j'ai fait une randonnée qui a duré 10 jours et qui était exceptionnelle. Je suis confond de randonnée, j'ai fait pas mal. Et ça, c'était la première fois qu'on était parti 10 jours avec tout ce qu'il fallait. Et c'était le chemin de Stevenson qu'on a fait. On a croisé beaucoup de petits villages. Et ça, c'était vraiment une expérience très foncée parce qu'on croisait les villages qui ne sont pas connus, pas du tout, mais ils sont très jolis. Et on a traversé pas mal de différents types de paysages avec le fond différent et tout. Et c'était vraiment un très, très bon souvenir que je vais garder pour toujours, je pense.
Et bien, c'est une transition parfaite parce qu'on va te demander dans un instant le conseil touristique pour l'Inde.
Trois jours de voyage, trois jours chez vous, trois jours de voyage, trois jours quête du Graal, trois jours de voyage, trois jours chez vous.
Alors, Kushal, pour celles et ceux qui nous écoutent, ou même pour nous autour de la table, si un jour on va en Inde, qu'est-ce que tu nous conseilles en priorité ?
Très difficile, parce que l'Inde, c'est un grand, grand, grand pays. On a beaucoup de types de paysages très, très différents. On a l'océan, on a des rivières, on a des montagnes, les hautes montagnes. On a un peu tout, donc ça dépend qu'est-ce que vous désirez. Si on part un peu côté ouest, c'est Mumbai, qui est la capitale un peu de côté ouest. C'est une ville très, très, très dynamique, on va dire. Beaucoup de population, mais ça, c'est une expérience très, très ville, entre guillemets, de l'Inde. Pas mal de bouffe, très, très, très bon. Si on part un peu sud, vers le sud, il y a une ville qui s'appelle Goa, qui est très populaire pour les étrangers. Donc, il y a des plages aussi belles qu'en France, peut-être un peu plus belles, je ne sais pas. si on part un peu dans le nord, il y a les grandes montagnes, l'Himalaya. Donc, ça, ce qui continue de nord jusqu'au nord-est. Au nord-est, c'est très, très... on peut être vraiment dans la nature parce qu'il n'y a pas beaucoup de grandes villes. Il y a beaucoup de petites villes et on est très vite dans la nature. Il y a les villes complètement perdues et c'est très, très cool là-bas. Et voilà, c'est un peu partout en Inde. Vous pouvez choisir n'importe quelle région de l'Inde et vous allez tomber sur un truc sûrement assez mémorable.
D'accord, merci.
Alors, par téléphone, nous avons Célian Kako, qui, lui, est parti au Japon et qui voulait nous raconter son expérience. Bonjour, Célian.
Bonjour.
Alors, on t'écoute.
Moi, je m'appelle Célian, du coup, j'ai 21 ans. L'année dernière, dans le cadre de ma licence éco-gestion, j'habitais au Japon. Et avant mon départ, pour être franc, je connaissais que très peu de choses sur le pays. Je ne parlais pas un mot de japonais. Et j'y allais très simplement pour l'opportunité de voyager en Asie et le fait de découvrir une culture en fait fondamentalement différente. Ce pays-là, il a clairement dépassé mes attentes, j'ai adoré. Et aujourd'hui, du coup, je prépare mon retour là-bas, car j'aimerais m'y installer.
Définitivement.
C'est ça.
Waouh. Et c'est quoi qui t'a plu à ce point?
C'est un mélange de plein de choses. Faut savoir que l'année dernière, du coup, j'étais étudiant à l'université de Tsukuba, qui était au nord de Tokyo, qui par ailleurs est en partenariat avec l'Académie de Grenoble, qui est réputée pour avoir pas mal d'étudiants étrangers. Et après, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'expats et qu'on puisse facilement parler anglais, je pense que ceux qui ont déjà entendu parler du Japon savent qu'on ne parle pas très très bien anglais là-bas. Mais bon, il n'y a pas de problème si vous êtes étudiant.
D'accord. Et on arrive dans la quatrième partie de cette émission. Rapidement, peut-être chacun peut faire un petit tour de table sur qu'est-ce que ça vous a apporté, votre séjour. Vincent ?
Moi, ça m'a apporté, pour moi, le voyage, comme on dit, hein, les voyages forment la jeunesse. Ça permet vraiment de s'ouvrir aux autres, de voir aussi ce qui se passe un peu en dehors de nos frontières. Et bon, on est dans une... en fait, en France, on est souvent focalisé sur la France, l'actualité ici, ce qui s'y passe, etc. etc. Mmh. Et pour moi, c'est important de voyager pour voir que... Il y a des choses... Enfin, voilà, finalement, on n'est pas si mal loti que ça, loin de là. Et aussi, qu'il y a des pays qui fonctionnent différemment et où les gens se prennent peut-être un peu moins la tête. Et en particulier en Australie, les gens, en général, sont beaucoup plus relax.
Tout à fait d'accord avec Vincent. J'ai peut-être un peu moins eu le temps de défendre le Japon, mais voilà, je conseille vraiment pour ceux qui veulent y aller. C'est vrai que c'est important de sortir un petit peu de sa zone de confort et... Il ne faut pas hésiter, surtout quand on est étudiant et qu'on a les moyens de partir avec beaucoup de partenariats et d'être bien encadré. C'est vraiment une chance à saisir.
Laila ?
Je suis d'accord avec les garçons. Je pense que quand on a l'occasion de le faire, il faut y aller. Moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, je voulais habiter et travailler à l'étranger et je n'aurais jamais pensé à la Corée du Sud. Et maintenant, je cherche à y retourner.
Ah oui.
De quelque façon que ce soit, ouais, j'aimerais bien habiter là-bas, ouais.
Ah, des coups de cœur là, partout. Ouais. Et toi, Kouchel ?
Moi, je dirais oui, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment l'ouverture de toutes les idées qu'on a dans nos têtes. Et un truc qui m'a marqué beaucoup, c'était de parler avec tous ces étrangers, parce que j'ai habité dans un résidence universitaire, donc il n'y avait que des étrangers. De parler avec tous ces étrangers, d'apprendre un peu, tu parles 5 minutes avec quelqu'un qui habite dans un pays très loin, tu apprends quelque chose. Chaque fois que tu parles avec un étranger, tu apprends quelque chose, parce que ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas vraiment. D'essayer la cuisine de différents pays, et ça permet vraiment d'ouvrir l'esprit... moi, j'ai trop aimé ça, l'expérience de partager beaucoup de temps avec les étrangers dans le résidence universitaire. Donc, j'ai dit bravo, Cruz.
Bravo, le Cruz, s'il nous entend. Et peut-être pour terminer, Célian, tu viens de dire que tu n'as pas eu trop le temps de défendre le Japon, c'est vrai. Est-ce que tu veux nous partager, je sais pas, y aurait des différences culturelles qui seraient importantes à transmettre pour toi aux Français et Françaises qui aimeraient partir au Japon ?
Ouais, alors il y en a des dizaines. Après, si je peux rejoindre ce qui vient d'être dit, c'est vrai que faut vraiment pas hésiter à y aller. Les Japonais, on a tendance à dire que c'est un peuple un peu timide. Faut pas hésiter à faire le premier pas. Et je pense notamment, si j'avais un conseil à donner, c'est de passer par ses hobbies et ses passions. En fait, sans parler un mot de la langue même du pays dans lequel on va, passer par tout ça. Et en fait, sans avoir besoin de quelques mots, juste par les actions. Et au final, pour ma part, c'est comme ça que je me suis fait de très bons amis. Donc, n'hésitez pas à faire le premier pas et puis passer par des trucs qui nous motivent, que ce soit le sport ou n'importe quelle activité culturelle, en fait.
Ça a été quoi pour toi ?
Pour moi, ça a été le basket et le VTT.
Allez, c'est noté. Merci beaucoup. Merci Célian, merci Laila, Vincent Kouchal d'avoir été avec nous.
Merci aussi à Anna Gasquet d'Europe Direct Dromardèche, Salia Djambouga du Pige et Julie Meunier des PVTistes et également Romain Guibaud de Graine Essence.
C'était donc l'émission Top Départ, l'émission qui vous donne les clés pour partir à l'étranger.
Et aujourd'hui, on était donc en Asie, Océanie.
Il s'agit d'une coproduction Europe Direct Drôme-Ardèche, Radio BLV, Valence Romo Aglo, la CAF et la DDCS Drôme.
Alors vous trouverez plus d'informations, les liens vers les structures dont nous avons parlé, sur le site internet de Radio BLV, radioblv.com, et sur Infogène Drôme-Ardèche.
Et sinon, on se retrouve en novembre pour vous amener cette fois-ci en Amérique du Nord. Donc si vous souhaitez participer à l'émission, écrivez-nous contact@radiobv.com. www.radiobelv.com. Merci encore à tous et toutes d'avoir participé.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci à toi.
Et comment dire au revoir en hindi, Kushal? Goodbye.
Franchement, on dit bye. On dit... Ah oui, on dit bye.
Et en coréen?
En coréen, on dit annyeonghaseyo.
Allez, bon, on va terminer là-dessus. Merci, Laila.
Top départ, le rendez-vous jeunesse en mouvement qui te donne les clés du voyage.